Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Blogueurs, artistes, marins, déserteurs, militants ultranationalistes, 70 prisonniers changés à la mi-journée entre la Russie et l'Ukraine. Parmi eux, le cinéaste Oleg Sentsov. Réaction dans cette édition de l'un de ses soutiens, l'écrivain Jonathan Little. Le chef indien Rohani, invité de l'Université d'été de la République en marche à Bordeaux, pierre angulaire du greenwashing auquel s'adonne le parti présidentiel. Le gouvernement qui essuie une pluie de critiques après avoir proposé en guise de préambule à une vaste consultation de mettre à distance de 5 à 10 mètres les habitations longées par des cultures traitées aux pesticides. Explication dans un instant d'Ilan Malka. Les États-Unis veulent y voir une nouvelle dynamique, un signe d'espoir pour la chancelière allemande et Paris de saluer une volonté de renouer le dialogue. À l'instant, le président français qui, sur son compte Twitter, salue la libération du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov. Peut-être un premier pas vers la fin de la guerre, ose le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Deux personnalités se détachent dans le cadre de l'échange de prisonniers entre Kiev et Moscou. L'ancien responsable de la défense antiaérienne séparatiste détenu par Kiev depuis juin, Volodymyr Tsemar, 58 ans, dont le nom a été cité dans l'affaire du crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines, abattu par un missile russe. Et puis Oleg Sentsov, cinéaste ukrainien. Parmi son comité de soutien français, l'écrivain Jonathan Little, sollicité par Benoît Bouscarel. Il commente, vous allez l'entendre, l'approche ukrainienne, compte tenu entre autres des soupçons qui pèsent sur Volodymyr Tsemar. Mais d'abord, il rend hommage à cette libération.
Écoutez, oui, bien sûr, c'est un très grand soulagement pour Oleg Sentsov. Et en même temps, on espère tous que ça s'arrête pas là. Parce que, comme vous vous souvenez peut-être, Oleg Sentsov, quand il a fait sa grève de la fin dernière, ne la faisait pas que pour lui, il la faisait pour 70 prisonniers politiques ukrainiens en Russie. J'ai pas vu la liste encore de ceux qui ont été libérés. Je pense qu'il y a une dizaine de personnes à part Sentsov en dehors des 24 militaires. Mais ça en laisse quand même une soixantaine dans les geôles russes, dont on espère qu'ils ne seront pas oubliés, ni par l'Europe, ni par l'Ukraine, maintenant que cette libération a été accomplie. Tsemar a été rajouté dans les discussions à la dernière minute, apparemment vendredi dernier. Évidemment, il y a eu des très fortes pressions européennes et notamment néerlandaises à cause de l'investigation sur l'avion malaisien abattu pour empêcher que Tsemar, qui est un témoin clé, soit rendu aux Russes. Mais Zelensky a finalement décidé que l'échange était plus important pour lui que un potentiel témoin sur le détail de ce qui s'est passé quand l'avion malaisien a été abattu et donc a accepté de le livrer. C'est très dommage pour l'investigation. Mais je comprends que les Ukrainiens, quelque part, aient voulu favoriser les familles des prisonniers vivants plutôt que les familles de toutes les personnes tuées dans l'avion malaisien. C'est de la réelle politique. Elle est assez sanglante et sale, de toute façon, en Ukraine depuis plusieurs années, en ce qui concerne tout ce qui se passe entre ces deux pays, avec beaucoup de meurtres, comme vous savez, d'opposants ukrainiens en Ukraine, enfin d'opposants à la Russie en Ukraine. Je crois que le président Zelensky a fait une décision relativement rationnelle qu'il fallait absolument avancer sur les dossiers qui étaient bloqués depuis de nombreuses années. Je sais que la France a joué un certain rôle là-dedans, l'a encouragé. Le président Macron, en tout cas, a clairement fait comprendre au président Poutine qu'une libération de prisonniers était un premier pas incontournable pour une avancée des négociations et une sorte de dégel des relations. Donc je pense que dans un schéma beaucoup plus global, cet échange de prisonniers n'est juste qu'un premier pas pour des étapes successives. Il y a encore beaucoup de prisonniers, évidemment, des deux côtés. Donc je pense qu'il y aura des négociations et des échanges ultérieurs. Et l'idée, c'est de reprendre des réelles négociations sur le Donbass, en mettant de côté, malheureusement, la Crimée, pour pouvoir débloquer ce conflit gelé dans le Donbass.
L'écrivain Jonathan Little avec Benoît Bouscarel. 6 journalistes afghans enlevés dans la province orientale de Paktia, nos confrères employés par des organes gouvernementaux et des médias privés, auraient été enlevés par erreur, selon un représentant des talibans. Le gouvernorat de la province négocie leur libération. Un Israélien et son fils agressés au couteau par un Palestinien en Cisjordanie occupée. Une attaque terroriste selon les premiers éléments de l'enquête diligentée par l'armée. Brest, Rouen, Strasbourg, Lille, Toulouse, Paris, des cortèges de gilets jaunes avec quelques heurts avec les forces de l'ordre, notamment à Montpellier, 50 personnes verbalisées à Paris pour non-respect de l'interdiction de manifester, 2 CRS blessés dans l'incendie d'un véhicule de police. Une traînée de poudre quand le gouvernement ambitionne de mettre à l'abri des pesticides les occupants des habitations qui jouxte des cultures soumises à des épandages de produits phytosanitaires en suivant les recommandations des scientifiques de l'ANSES, eh bien, le gouvernement croule sous les critiques. Bonsoir Ilan Malcam.
Bonsoir Mathieu.
Ilan, a commencé par les critiques d'Europe Écologie Les Verts.
Oui, alors concrètement, le gouvernement propose d'instaurer une distance pouvant aller jusqu'à 10 mètres entre les champs traités aux pesticides et les habitations. David Belliard est candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris.
Il y a une petite avancée d'ailleurs qui est liée aux élus, souvent écologistes, qui ont pris des arrêtés en ce sens dans leur commune. Donc il y a un premier pas, mais ce pas il est encore très largement insuffisant. Il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin.
On se souvient que le maire sans étiquette de Langouette, Daniel Cueff, a interdit l'utilisation de pesticides à moins de 150 mètres autour des habitations dans sa ville, arrêté suspendu par la justice. Le gouvernement souhaite donc que cette distance soit comprise, on l'a dit, entre 5 et 10 mètres selon les cas. Elisabeth Borne, ministre de l'écologie.
Les distances, elles sortent pas d'un chapeau. C'est celles qui ont été préconisées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Évidemment, le gouvernement se fonde sur l'avis de scientifiques et c'est ce que nous faisons avec les textes qui sont mis en consultation lundi.
Alors, les associations écologistes ne sont pas du tout convaincues par cet argument. Nadine Lauvergeat est coordinatrice de l'association Génération Future. Elle met en avant un rapport des inspections générales du ministère de l'Environnement et de l'Agriculture.
Elle propose ces inspections de différents scénarios, dont des distances de sécurité qui vont bien au-delà de ces 5 à 10 mètres et la promotion de systèmes agricoles alternatifs à l'agriculture intensive aujourd'hui en vigueur. Donc, il faut aussi s'inspirer d'ailleurs de ce rapport qui mériterait, à notre sens, d'être mieux lu et relu par les ministères concernés.
Les propositions du gouvernement peuvent encore évoluer. Elles sont soumises à consultation à partir de lundi prochain pour 3 semaines.
Merci à vous, Ilan Malcam. Pourquoi se priver de l'une des voix les plus écoutées de la lutte contre la déforestation en Amazonie? Le chef indien Rouhani n'a eu à faire que quelques kilomètres pour passer de la tribune du festival d'écomobilisation Climax, à laquelle il livra sa pensée sur le déracinement des sociétés modernes, à l'estrade de l'Université d'été de la République en marche à Bordeaux. Pourquoi se priver d'un symbole quand il complète avantageusement la panoplie d'une formation en flagrant délit de greenwashing? À Bordeaux, Rosalie Lafarge.
C'est un gros coup, voilà ce qui se dit dans les allées du campus de la République en marche. Le cacique Rouhani à l'université d'été d'LREM, forcément l'image marque, la photo a du poids et le mouvement capitalise dessus. D'autant que l'événement se veut éco-responsable. Des affiches en papier issues de forêts biogérées sont placardées un peu partout dans le parc des expositions pour rappeler la présence de fontaines à eau, de vaisselles compostables sur les stands de nourriture, d'une plateforme de covoiturage ou encore la mise en place de réceptacles pour collecter et traiter les mégots de cigarettes. Mais au-delà de ça, la ligne verte de la République En Marche continue d'en faire douter plus d'un. Pas ici, où l'on ne trouve quasiment que des marcheurs motivés et convaincus, mais chez les écologistes ou les associations, on se demande encore si le parti présidentiel a pris la mesure de l'urgence. Même au sein des partis partenaires invités à ce campus de la République En Marche, on se la pose cette question. Un responsable très investi sur les dossiers écologiques depuis des années le reconnaît, hors micro. Sur l'environnement, ils ne savent pas faire et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous appellent pour les municipales. Ils savent qu'ils ont besoin de notre crédibilité sur ces sujets, puisque eux, les marcheurs, n'arrivent toujours pas à convaincre.
Et le souverain pontife, eh bien, peu après avoir pris langue avec les autorités malgaches, il vient de lancer un appel, lui aussi, contre la déforestation, mais aussi la corruption. Appel sans détour ni relâche du pape François. Le reportage de Bruce de Galzin à Tananarive.
C'est par l'extrait de Nabucco de Verdi, le Vapensiero, que le pape a été accueilli. Le chant de ralliement des patriotes italiens, un choix plutôt surprenant pour saluer le chef de l'État du Vatican. Le président malgache, André Rajoelina, s'est d'ailleurs permis quelques envolées lyriques qu'il n'avait pas adressées au Vatican en se présentant comme le sauveur de son pays. « J'ai entendu le cri de mon peuple, cela m'a fendu le cœur, je vais tout faire pour le sortir de la misère », a-t-il dit. Le pape a salué un discours patriote et plein de passion, mais a dénoncé la corruption endémique et la spéculation qui dévaste la riche biodiversité de Madagascar.
« Questa ricchezza è particolarmente minacciata. »
Cette richesse est particulièrement menacée par la déforestation excessive au profit de quelques-uns. Sa dégradation compromet l'avenir du pays et de notre maison commune.
Le président malgache, lui, n'a pas évoqué la déforestation, alors qu'environ 200 000 hectares de forêt sont perdus chaque année, selon l'ambassadeur britannique présent ce matin, et que la majorité de la forêt tropicale pourrait disparaître d'ici 2040.
La ministre française de la Défense annonce l'envoi d'un détachement militaire aux Bahamas pour venir en aide à la population. Ces îles des Bahamas, ravagées par l'ouragan Dorian, où le bilan provisoire de 43 morts est amené à grossir considérablement, ne cesse de prévenir les autorités pour préparer au pire. La météo de demain dimanche pour la France métropolitaine, temps généralement variable avec des risques d'averses, surtout sur l'est du pays. François-Charles Domergue a préparé avec moi cette édition à la technique d'Aliya.